Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bien, bonsoir aux auditrices, aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International Évreux, le groupe qui anime sa deuxième, et, enfin sa seconde et dernière émission du mois de janvier, puisqu'on est le 30 janvier.
Et après,
janvier.
Ça sera la première du mois de février.
C'est à peu près ça. Il y a Edith qui a très bien compris l'enchaînement des choses. Donc, vous venez d'entendre Edith, effectivement, qui est avec nous.
Bonsoir.
Oui, il y a à côté de moi aussi Sabine.
Bonsoir.
Il y a Randan qui, comme d'habitude, termine de ranger vite fait avant l'émission les disques et les
clés. Oui, parce qu'avant nous, il y a d'autres personnes. Il doit tout installer.
Bonsoir. Bien sûr, on enchaîne sur une autre émission, ce qui est logique. Et puis, il y a quelqu'un qu'on n'a jamais entendu au micro, qui fait partie du groupe depuis quelques mois et qui est aussi la responsable de l'antenne jeune du lycée Aristide Briand. Et on est très content que ce soit avec nous ce soir, c'est Clara.
Bonsoir.
Voilà. Et puis, il y a moi.
Et Didier.
Et justement, l'émission d'avant, la personne des Tropical Hermès nous a dit, tiens, Amnesty se rajeunit.
Ouais, ah, bon, oui, on sait pas pourquoi ils ont dit ça. Ouais. Parce que nous, on est quand même super jeunes.
Moi, je me suis senti, j'étais vachement. Non, enfin, quand c'était
pas. Non, moi, j'étais très content d'accueillir Clara.
Mine, mais non.
Non,
mais c'était Clara.
Non, mais c'est vrai que les antennes jeunes se développent beaucoup à Amnesty depuis 2 ans, 3 ans.
Didier,
soyons clairs. Clara en fait partie.
Oui. Une antenne, oui. Elle n'a pas une antenne. Elle fait pas. Une antenne, ça veut dire un groupe de jeunes super motivés par les droits humains.
Exactement.
Et c'est plus joli.
Voilà. Et qui font passer le message d'Amnesty et des droits humains dans l'établissement où ils sont. Et pour Clara, c'est au lycée Aristide Briand. Mais elle va vous dire 2 ou 3 petits mots, je pense, tout à l'heure, vers la fin de l'émission, par rapport à ce qu'on fait dans le lycée. Ce soir, pour commencer, on va vous parler d'une actualité très très récente dont vous avez probablement pas trop entendu parler dans les médias. Et on est un peu les spécialistes aussi, nous, pour pas forcément vous parler des choses dont on vous rabâche les oreilles à droite et à gauche. Il existe tous les ans au Mémorial de Caen. Mémorial de Caen, pour ceux qui connaissent pas, c'est un genre de musée, entre guillemets, sur la Seconde Guerre mondiale, et qui parle de l'Holocauste, enfin, etc., etc. Et dans cet établissement a lieu tous les ans un concours de plaidoirie. Relatif au soutien pour les droits humains. Alors, le dernier concours de plaidoirie, il est très récent, puisqu'il a eu lieu je regarde dans mes notes, que je vous dise pas de bêtises, le samedi 26 janvier dernier.
La semaine dernière.
Voilà. Donc, il y a 3 catégories de plaidoirie. Il y a la catégorie de plaidoirie pour les avocats professionnels, il y a la catégorie des plaidoiries pour les avocats stagiaires en formation, et une catégorie qui a été ouverte pour tout ce qui est lycéen. Qui viennent effectivement défendre des dossiers sur des sujets qui les intéressent et qui sont relatifs aux droits humains. Donc voilà, la dernière, le 26, donc il y avait plaidoirie devant, dit-on, sur le site du mémorial, parce que je n'y étais pas, 3000 personnes qui étaient réunies. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et parmi les plaidoiries des lycéennes, il y a une personne qui s'appelle Hélène Yildiz, qui est d'origine turque, qui fait partie d'une minorité turque qui s'appelle les Alevis, qui a fait un discours de plaidoirie pour défendre les droits de cette minorité en Turquie. Et donc, plutôt que de vous faire un grand discours sur ce qu'elle a dit, c'est Sabine qui va vous lire un extrait de sa plaidoirie. Je repasse la feuille à Sabine, parce que c'est moi qui l'avais sous les yeux.
Alors, une croyance dissimulée. Les Alevis de Turquie. Je vais vous parler d'un peuple, mon peuple, d'une culture, d'une religion très minoritaire, les Alevis. Ils sont entre 10 et 15 millions en Turquie, vivant dans un pays à forte majorité sunnite. Ils peinent à faire valoir leur culte et leur mode de vie. L'alévisme est basé sur la science, la nature, mettant l'être humain au centre. Il prône la laïcité et l'égalité des sexes. Ce peuple minoritaire est persécuté depuis de nombreuses années. En effet, ne respectant aucun principe de l'islam, de nombreux massacres ont eu lieu, comme à Maras, Dersim ou Sivas. dernier lieu, où 33 alévis ont été brûlés vifs. Brûlés vifs, vous vous imaginez ? Nous sommes en Turquie, pays défini comme étant laïque et démocratique, répondant normalement au principe des droits de l'homme. La torture est une violation des droits de l'homme et est rejetée par le droit international et par la Déclaration universelle des droits de l'homme qui proclame les articles 5 que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il y a quelque chose qui ne va pas là, non ? Comment peut-on ôter la vie d'autrui ? Car celui-ci n'est pas de la même religion que vous. Tayyip Erdogan, président de la Turquie depuis 2014, est le créateur du AKP, parti politique au pouvoir. AKP, Adalevi Kalmima.
Le turc
Oui. Non, je ne vais pas réviser.
Tu peux faire l'espagnol, je suis sûr.
Ah, oui. Sabine va prendre des cours
signifie,
de turc excellent.
Oh non. Oh non. Parti de la justice et du développement, qui est un parti islamo conservateur. Depuis sa prise de pouvoir, les choses ont empiré du côté des alévis. Il n'y a pas que de ce côté-là, mais bon. Et ne cesse de l'être d'ailleurs. Dans ce pays dit démocratique et laïque, des heures de prière se déroulent dans chaque administration. Suite à cela, les alévis doivent simuler de prier auprès de leurs collègues sunnites par peur de se faire renvoyer. Nous pouvons également parler du jeûne du mois de Ramadan, où tout bon musulman doit y participer. Les alévis ne font pas le Ramadan. Et durant ce mois, afin de ne pas se faire harceler par le voisinage, ils laissent allumer les lumières de chez eux le soir afin de faire croire qu'ils se lèvent la nuit. Il y a de nombreuses choses à dire à propos des persécutions envers les alévis. Le fait que cette croyance soit peu connue, le fait que les alévis soient peu nombreux, font d'eux des ignorés de la société. Cette discrimination arrive peu à peu en France et dans d'autres pays où de nombreux alévis sont présents, comme en Allemagne, en Autriche, au Royaume-Uni. Pour lutter contre cette discrimination, il faut faire entendre ce peuple. Le monde entier devrait en entendre parler. Nous, citoyens de la République française, pouvons les aider car nous savons les valeurs des droits de l'homme. J'ai bien peur que ma croyance finisse par disparaître, car les alévis s'assimilent de plus en plus à l'islam. Cela me rend triste. Je ne veux pas. C'est pour cela que je suis aujourd'hui devant vous, à vous parler de ce peuple, de mon peuple. Hélène Yildiz.
Voilà, donc cette jeune fille qui est d'un lycée, du lycée Saint-Exupéry de Famec, ça doit être en Moselle si j'ai bonne mémoire, donc a fait cette plaidoirie donc, le 26 janvier dernier. Et depuis, elle reçoit sur les réseaux sociaux, entre autres, un certain nombre de commentaires, on ne peut pas dire très élégants sur ce qu'elle a dit. Puisque pour ne rien vous cacher, elle a été appelée, c'était marqué insultée. Quelque part, enfin, elle a été insultée, insultée. Oui, effectivement.
Menacée.
Donc par rapport à des gens qui considèrent que ce qu'elle a dit était infondé, était contre les Turcs, enfin, etc., etc. Alors moi, ça m'a inspiré une petite réflexion.
Ouais, je pense, juste oui, Didier, oui, vas-y. Pense que comme je crois que c'est la dernière radio, ceux qui ont écouté quand on a pu parler de l'écrivaine turque.
Oui,
et quand elle racontait un peu où en était arrivée la liberté d'expression ou le manque de liberté d'expression en Turquie et comment les Kurdes étaient opprimés et avaient des craintes pour leur vie. Voilà, on connaissait pas forcément cette minorité à Lévis, mais effectivement, c'est aussi compliqué pour eux d'exister et de coexister en Turquie actuellement.
Voilà. Et donc, j'ai oublié de vous préciser que cette jeune fille, donc Hélène Yildiz, avait eu le prix du jury décerné par la MGEN dans le cadre de ce festival de plaidoirie au mémorial de Caen. Donc, elle a reçu, comme on disait, beaucoup d'insultes. Et moi, ça m'a inspiré les réflexions suivantes. Les gens qui se permettent effectivement pour toute réaction par rapport à ce qu'a dit cette jeune fille et que vous venez d'entendre dans la bouche de Sabine, les gens qui se permettent ce type de réaction, il faudrait quand même qu'ils se posent des questions sur la façon dont ils se comportent dans le monde en général. Parce que bon, s'ils ont des arguments à l'encontre des éléments qui ont été apportés par Hélène, eh bien, on en discute. Il y a des enquêtes, il y a des choses qui sont qu'on peut prouver, dans un sens comme dans l'autre. Je veux dire, la discussion est toujours ouverte. Si la seule réaction qu'on a par rapport à des choses qu'on entend et qui ne nous plaisent pas, peu importe les raisons pour lesquelles ça ne nous plaît pas, c'est l'agression, l'insulte et l'intolérance. Il n'y a plus de vie possible entre les gens. Et j'ai simplement envie de leur dire à ces gens-là qui alimentent les réseaux sociaux, alors probablement aussi que parmi ces jeunes-là, il y a des gens qui sont manipulés par derrière. Hein. On sait bien que les États derrière, comme la Turquie, ne sont pas neutres par rapport à tout ça. Mais quand même, si les gens qui utilisent ce type de réaction, le jour où ils se retrouveront dans une situation où ce seront eux qui seront, entre guillemets, minoritaires, dont leurs conditions de vie seront remises en cause par d'autres autorités, eh bien, ils subiront ce qu'ils sont en train de vouloir faire subir à d'autres. Et on n'en sortira jamais. Alors je demande quand même à ces gens-là d'avoir un peu plus que 2 neurones et demi dans le cerveau et de se rendre compte que, je veux dire, il y a le comportement de désaccord vis-à-vis des gens. On discute et on s'explique. L'insulte et la menace, c'est complètement débile.
Sauf que c'est la place de la liberté d'expression des femmes en Turquie qui a fait un recul terrible aussi ces derniers temps.
Oui, mais ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'effectivement en Turquie, c'est très compliqué, que les réseaux sociaux amènent aussi une liberté de parole anonyme.
Oui, bien sûr.
Ça peut arriver, ça arrive dans tous les pays. Et c'est ça qui est aussi inquiétant, c'est cette contagion. Ah ben oui. Ouais, qu'il y a entre les pays qui sont effectivement en souffrance. Cette jeune fille qui est en France et qui a absolument aucune raison d'être menacée par des Turcs ou par des personnes pensant dispenser le discours turc en France. Ça aussi, c'est très inquiétant.
Alors, juste pour finir sur ce... Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Juste pour finir sur ce chapitre, il est dit dans le communiqué qui est sur le site du mémorial de Caen que je suis allé voir là aujourd'hui pour m'enseigner un peu, lors de sa victoire à la finale régionale de Strasbourg, parce qu'elle avait concouru déjà à Strasbourg pour être sélectionnée, les tensions communautaires turques avaient déjà rattrapé la lycéenne. À l'annonce des résultats, des commentaires traumatisants avaient fleuri sur les réseaux sociaux. Après le succès cannais, Hélène Yildiz est donc de nouveau dans l'œil du cyclone. Très soutenue par son établissement, elle l'est aussi par le mémorial de Caen, dont le directeur dit « Il s'agit d'une affaire grave. Cette lycéenne a dénoncé ce qu'elle considérait être une atteinte aux droits de l'homme. En aucun cas, elle n'a fait acte de militantisme. Si plusieurs polémiques ont déjà enflammé les concours de plaidoirie, c'est la première fois qu'une lycéenne est la cible d'attaques personnelles. Nous faisons très attention à bien expliquer aux lycéens les enjeux du concours et des sujets qu'ils choisissent. Nous l'expliquerons encore davantage lors des prochaines éditions. » Et moi, l'idée qui m'avait traversé l'esprit aussi aujourd'hui, c'est que je pense, alors là, je n'en ai même pas parlé au groupe avant l'émission, mais je pense contacter le mémorial de Caen, puisqu'on parle d'elle dans l'émission, pour lui demander s'il y a moyen de lui envoyer le lien de cette émission à cette jeune fille, pour qu'elle sache au moins, effectivement, que nous, ici, à Évreux, alors on n'est pas à Caen, c'est sûr,
on la soutient,
on a parlé d'elle, et encore une fois, on considère que les gens qui l'attaquent sont de sombres crétins. Voilà.
Ça, je te sens remonter ce soir.
Mais non, mais enfin, c'est vrai.
C'est soucieux et ça fait peur
quand
même.
Ah non, mais je te donne raison. Hein.
Et donc, pour terminer sur le mémorial de Caen, parce que du coup, ça m'a donné envie de creuser un peu plus le sujet.
T'as lu toutes les plaidoiries ?
Non, j'ai pas lu toutes les plaidoiries. Il y en a une autre qui est en lien aussi par rapport à ce qui se passe en Turquie, et c'est pour ça que ça m'a donné aussi envie de vous la lire. Il y a un autre prix qui a été attribué, donc vendredi dernier, qui a été attribué à une avocate qui s'appelle Alexandra Dumitrescu. Qui, elle, est professionnelle, et qui a fait une plaidoirie pour défendre quelqu'un dont on vous a déjà longuement parlé ces derniers mois, qui est Taner Kilic, qui est le président d'Amnesty Turquie, et qui est toujours emprisonné, actuellement pour conspiration contre l'État et appartenance à un groupe terroriste, dans les geôles de M. Erdogan, et dont la nouvelle audience du procès aura lieu demain. On vous rappelle qu'il y a toujours la pétition, elle est toujours d'actualité, on peut toujours la signer et on vous recommande
et
de le faire.
Et sur le site d'Amnesty.
Voilà, la pétition en défense demandant la libération inconditionnelle de Taner Kilic. Et cet avocat, dont je ne vais pas tout vous lire, mais cet avocat a dit par rapport à sa plaidoirie qu'elle avait choisi cette cause, donc de soutenir Taner Kilic, car il est persécuté pour son courage et son implication dans la défense des droits de l'homme en Turquie, pays pourtant signataire de la Convention européenne des droits de l'homme. Et elle ajoute plus loin, après les journalistes, les artistes et les écrivains, désormais les avocats et plus généralement les militants de défense des droits de l'homme font l'objet de poursuites pour de prétendus actes de terrorisme. Taner Kilic est donc visé pour ce qu'il est et pour ce qu'il a accompli en tant qu'avocat et directeur local d'Amnesty International, pour le respect de la Convention européenne des droits de l'homme à laquelle la Turquie reste néanmoins tenue. Il est ainsi une magnifique incarnation de la liberté, telle que définie par la philosophe Hannah Arendt. Pour cela aussi, il est un exemple. Voilà. Donc j'avais prévu de vous en parler plus longuement, mais on va manquer de temps. Si ça vous intéresse, vous allez sur le site du Mémorial de Caen, vous tapez Mémorial de Caen sur Google et vous aurez le site tout de suite. Vous avez ces différentes plaidoiries en ligne. Vous avez un très beau texte de cet avocat, effectivement, qui parle longuement de ce qui se passe en Turquie, qui parle d'amnesty en Turquie. Je vais juste vous lire quand même une phrase parce que ça m'a fait sourire. Elle dit simplement dans le courant de sa plaidoirie, jusqu'à présent en Turquie, une organisation terroriste armée, entre guillemets, c'est l'appellation officielle, désignait principalement la confrérie Gulen, accusée d'avoir organisé le coup d'État raté du 15 juillet 2016. Elle désignait également les séparatistes kurdes du PKK et un parti d'extrême gauche qui prône la violence. Et elle ajoute, il faut croire que cette expression désigne désormais aussi l'ONG Amnesty International. Donc voilà, on est désolé, vous avez derrière le micro des terroristes internationaux.
C'est 4, 5.
Bon, mais bon, nous, on n'est pas inquiets.
On en apprend tous les jours.
Nous, on n'est pas inquiets parce que bon, ça nous fait plutôt sourire. Mais encore une fois, continuez à soutenir Taner. Il faut absolument qu'il soit libéré dans les meilleurs délais.
Taner et les autres.
Voilà. Voilà. Et ça me fait penser quand même, pour terminer, un petit mot de remerciement. On a, nous, écrit en tant que groupe auprès des députés pour demander le soutien de Taner Kilic. Et il y a un député, monsieur...
Alors là, Didier, c'est toi qui...
J'ai son nom sur le bout de la langue.
Et en plus, tu me l'as dit tout à l'heure.
Monsieur Gouttefard, voilà. Monsieur Gouttefard, je ne sais pas comment ça se prononce, Gouttefard ou Gouttefard.
Il nous excusera.
Voilà. Et il excusera mon petit trou de mémoire. Et qui nous a effectivement soutenus et qui est même allé jusqu'à envoyer une lettre de soutien à Taner Kilic auprès de l'ambassade de Turquie la semaine dernière. Donc, merci beaucoup, monsieur le député. Ça ne peut qu'aider les choses. Et il n'est pas le seul. J'ai vu sur le site d'Amnesty que d'autres députés s'étaient également engagés.
Voilà, tous les groupes ont été démarchés, leurs députés, pour...
Voilà, beaucoup de groupes l'ont fait et un certain nombre ont répondu. Ça ne peut qu'aller dans le bon sens. On espère effectivement que toutes ces actions permettront à ce que Taner soit remis en liberté. Demain soir, on croise les doigts. Voilà. Après ces considérations donc, sur les droits humains et les plaidoiries des uns et des autres, un petit mot sur la Chine et le Tibet. Je crois qu'il y a Edith qui voulait vous emmener là-bas.
Oui.
Il n'y a pas de transition géographique.
Ouais. On a envie de voyage pour cette émission de radio. Donc, on va essayer de vous emmener dans différents lieux, mais bon, pas forcément sur le côté 4 étoiles et grand hôtel, malheureusement, un petit peu. Donc, la Chine, bah, déjà, un petit devoir de mémoire. Si je vous dis Liu Xiaobo, qu'est-ce que vous me répondez, là, les amis?
C'est Ronan qui va répondre, le quiz lui était destiné.
Ronan est occupé, il a dit non. Bon.
Il s'en va.
Je vais prendre une technique, là.
Il déserte.
C'est un artiste qui a été en prison.
Alors, c'est le chinois,
en plus, ça me dit quelque chose.
Écrivain, qui a eu le prix Nobel de la paix.
Voilà,
exact.
Et qui devait aller le chercher en 2010. Et comme il était emprisonné en Chine, condamné à 11 ans de détention en 2009, personne ne s'est présenté à Oslo. Sa femme, qui est une poétesse, qui est Liu Xia, elle-même assignée à résidence, n'a pas pu y aller. Donc, il y a eu à ce moment-là, 2010, alors c'est vrai que Clara... Ça fait il y a longtemps. Hein. C'était une chaise vide et on en a parlé au niveau de l'opinion mondiale. Mais bon,
je croyais que tu disais que Clara était une chaise, je comprenais pas.
Mais non, c'est parce que pour Clara, ça fait il y a longtemps. Allez. Mais pour vous, non, là, franchement. Hein. Et donc, après cette non-attribution officielle du prix Nobel, effectivement. On a évité d'en parler pendant des années. Les gens se sont passés à autre chose, sauf... Alors, j'aime bien la phrase, c'est pris dans la chronique d'Amnesty. Donc, seuls d'irréductibles défenseurs des droits humains, alors je pense que nous, on en fait un petit peu partie, s'acharnaient à demander la libération du pacifique rédacteur de la charte 08. C'était une charte inspirée de la charte 77 de Václav Havel, qui réclamait démocratie et liberté. C'est cette charte-là qu'il a écrite avec d'autres et qu'il a mis en valeur en Chine Et il y a eu quand même pas mal de personnes qui, à ce moment, donc dans les années 2008-2009, ont signé cette charte. Et cette charte, cette initiative lui a valu d'être considérée en ennemi de l'État par les maîtres de Pékin et traitée en conséquence par une justice aux ordres. Alors là, vous avez dû en entendre parler. En 2017, en juillet 2017, le monde s'émeut. Car depuis quelques semaines, Pékin refuse de permettre à l'écrivain, qui est emprisonné depuis 2009, de sortir de prison car on sait qu'il est en phase terminale d'un cancer et que peut-être il pourrait recevoir des soins à l'étranger. La Chine refuse et on s'émeut encore plus à l'annonce du décès de celui qui devient le second Nobel de la paix à mourir en détention. Le lendemain, en catimini, les cendres de Liu sont dispersées en mer. De tout cela, les Chinois n'ont rien su. Dans le pays le plus connecté du monde, la majorité des citoyens n'a jamais entendu parler du Nobel de la paix et tout a été fait pour qu'il disparaisse de la surface de la Terre après son décès. Donc voilà le sort actuellement de Liu Xiaobo. Mais en Chine, des défenseurs courageux ont, dès la dispersion des cendres, essayé de se réunir à l'endroit où les cendres ont été dispersées. Donc je vous redonne la date, ça fait juillet 2017. Et depuis, toutes les personnes qui se sont réunies ont été systématiquement, chacune à leur tour, arrêtées. Arrêtées, emprisonnées. Certaines ont été libérées un mois d'après. Et là, les deux dernières personnes qui n'ont pas été encore, qui n'avaient pas été incarcérées, l'ont été au mois de décembre. Donc il y a Li Xuan, un écrivain indépendant, et Xan Yunong, ancien journaliste financier et écrivain sur Internet, incarcérés car ils ont participé à la réunion de commémoration de la mort du lauréat du prix Nobel de la paix. Donc c'est un peu pour démontrer la façon de fonctionner de la Chine et de la police chinoise. Elle ne lâche pas. C'est-à-dire que ces deux personnes ont été arrêtées, Li Xuanwen, à la gare de Ganzhou. Et il a été arrêté directement. Donc, il pense que les gendarmes l'ont reconnu avec un logiciel de reconnaissance faciale. Car il a été arrêté avant d'avoir passé la porte et que son identité était vérifiée à la gare. Alors là, je fais une parenthèse par rapport à Internet. Les reconnaissances faciales, les reconnaissances avec les empreintes digitales. Waouh, c'est beau le truc moderne. Mais en Chine, vous voyez à quoi ça sert ?
Ben oui, bien sûr.
Voilà,
ben
donc.
Oui.
Et les Chinois sont très très forts.
On a toujours détourné les.
Au niveau de ces possibilités modernes. Donc pensez-y quand même aussi un peu.
Oh, mais il y a même la traque du téléphone portable, hein, simplement, sans aller si loin. Hein.
Oui, mais là, c'est vraiment pour le répressif. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait en avance sur cette technique-là et ils les utilisent pour les répressifs. Donc ces deux personnes sont actuellement emprisonnées. Ce sont les derniers militants à avoir été arrêtés pour avoir participé à cette réunion. Les autorités doivent décider dans le mois et demi si leur placement en détention continue ou si les deux militants seront inculpés officiellement. Alors là, Amnesty, il y a 15 jours, a fait passer une action urgente qui demande la libération immédiate et sans condition de Li Xuanwen et de Xan Yunong, à moins qu'il existe des preuves crédibles indiquant qu'ils ont commis une infraction reconnue par le droit international. Donc soyez sûrs que même si la Chine continue jusqu'au bout, à arrêter les défenseurs, à faire taire tout ce qui peut exister autour de Liu Xiaobo, parce que sa femme, actuellement, elle est à résidence, mais on n'a aucun contact avec elle depuis la mort de son mari. Nous, Amnesty, on continuera aussi de dénoncer et de faire des actions quand cela sera possible.
Ok, mais écoute, merci.
Voilà, et puis, je peux continuer un petit peu sur l'Asie ?
Tu peux continuer un petit peu sur l'Asie, oui. Et puis il y a Renan qui proposait qu'on change un peu la programmation qu'on avait prévue pour l'émission, qu'on mette la pause musicale
un peu plus tôt. Une petite pause ?
Ça, t'es pas obligé de le dire.
Si, parce que moi j'aime bien qu'on me dise si je parle ou si j'écoute de la musique. Une petite pause musicale. Allez, et après vous allez au Tibet trop fort.
Il y a du sang sur le trottoir. poussière brûlée. C'est ses ongles sur le blindé. Ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur. J'entends battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Il vivait avec des mots qu'on passait sous le manteau, qui brillaient comme des couteaux. Il jouait de la dérision comme d'une arme de précision. Il est sur le ciment et ses chansons maudites, on les connaît par cœur. La musique parfois a des accords majeurs qui font rire les enfants mais pas les dictateurs. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Ça dépend de ton attitude, ces 100 ans de solitude. Y'a du sang sur mon piano, y'a des bottes sur mon tempo. Au-dessous du volcan, je l'entends, j'entends battre son cœur. La musique parfois a des accords mineurs. Pour grincer les dents du grand libérateur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Écoute chanter la foule avec tes mots qui roulent et font battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur.
Bien, c'était Bernard Lavilliers, je pense que tout le monde aura reconnu, hein, une chanson qui n'est pas très très récente, mais dont le lien avec les droits humains est tout à fait évident, il suffit d'écouter les paroles pour savoir qui parle exactement de ce qu'on vous parle tous les 15 jours à la radio. De ce dont on vous parle, je veux parler mieux français.
Puis même qu'il était au Zénith le week-end dernier.
Oui, il y a Renan qui était venu le voir.
Alors c'était comment?
Voilà.
Ah bah c'est comme d'habitude, c'était génial. Ah bon. Mais moi j'ai raté aucun de ses concerts depuis les années 80. Donc...
Un fan, mais il a raison.
Moi je l'ai vu il y a très très longtemps, je ne suis jamais retourné le voir.
Ouais.
Donc il y avait Edith qui veut encore vous dire encore.
Mais oui, parce
un petit
que moi
mot
je
sur le Tibet.
Encore, voilà, je continue avec la Chine, je sais pas, j'avais quelque chose à voir avec eux là.
Et puis après, donc, je crois qu'il y avait quelques sujets sur les droits, l'évolution des droits à l'avortement, alors, avec Edith et Clara.
Voilà. Après, je laisse la parole à Clara. Donc voilà, le Tibet, vous voyez le Tibet, le petit pays juste à côté de la Chine, où la Chine s'est installée de plus en plus depuis quand même quelques années. Hein. Donc je vais vous parler de quelqu'un là qui n'est pas connu, c'est Tashi Wangchuk. C'est un Tibétain et il est passé en procès en début janvier devant le tribunal de la préfecture autonome tibétaine de Yushu dans la province de Qinghai. Alors là, c'est pour vous faire voyager un petit peu. Alors cet homme-là plaide pour que les cours soient dispensés en langue tibétaine dans les écoles des régions peuplées. peuplée de Tibétains, où le chinois est devenu la seule langue d'enseignement. Alors Tashi, lui, s'est dit préoccupé par le fait que nombre d'enfants tibétains sont incapables actuellement d'utiliser couramment leur langue maternelle, ce qui contribue à l'extinction progressive de la culture tibétaine. Et comment se fait-il qu'il s'est trouvé dans ce procès ? C'est parce qu'il y a eu un court-métrage qui a été produit par le New York Times en 2015, qui portait sur sa campagne en faveur de l'enseignement de la langue tibétaine dans les écoles. Ce court-métrage raconte le voyage de Tashi Wangchuk à Pékin, où il a tenté d'obtenir l'aide d'avocats pour engager des poursuites contre les autorités locales en raison de l'absence de cours de tibétain. Ce film montre qu'aucun cabinet d'avocats n'a accepté de se charger de l'affaire et que la chaîne de télévision soutenue par l'État, l'État chinois, a refusé d'évoquer la question malgré les demandes de Tashi Wangchuk. La police a utilisé ce court-métrage comme preuve, accusant Tashi Wangchuk d'avoir délibérément incité au séparatisme en tentant de ternir l'image du gouvernement chinois à l'étranger et de discréditer sa politique vis-à-vis des minorités ethniques. Alors, cette affaire est un exemple parmi tant d'autres de discrimination. Cette affaire montre la discrimination extrême dont les Tibétains font aujourd'hui l'objet en Chine, notamment sous la forme de restrictions apportées à leur liberté d'expression et à leur droit d'utiliser leur propre langue. Le procès a eu lieu et j'ai été curieuse, j'ai été voir un peu le résultat de ce procès. Alors, le verdict ne sera connu que dans quelques temps. Il encourt jusqu'à 15 ans de détention. Un des journalistes de New York Times et des diplomates ont essayé d'être présents au procès. Ils n'ont pas pu y aller. Même la famille de Tashi, il y a eu simplement 2-3 personnes qui ont pu aller au procès. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que le 18 janvier 2018, le Parlement européen a voté une résolution sur le cas de militants des droits de l'homme en Chine, dont Tashi Wangchuk. Donc là aussi, la Chine, elle tient vraiment toutes les personnes qui osent s'opposer à sa politique, mais nous aussi, on est en face et il faut qu'on continue.
Et tu sais la résolution du Parlement européen,
Alors, je l'ai lu très rapidement parce que, attendez, vu, c'était un peu complexe. Il y a donc Tashi Wangchuk, qui a 4 autres militants et elle parle de déclarations, elle parle de la position de l'Europe par rapport aux droits humains. Elle est tout à fait intéressante. Donc, je l'ai vu juste avant la radio, là, je suis allée piocher ça sur Internet. Donc, vous mettez le nom de Tashi Wangchuk ou militant tibétain, et vous allez voir la déclaration.
Ça s'écrit comment ?
Comme je l'ai prononcé, bien entendu.
Comment ça se prononce ?
Parce que tu dis vous tapez ça, mais déjà...
Vous mettez militant langue tibétaine, et c'est un procès qui a eu lieu en début janvier, et là, ça date du 18 janvier, la résolution du Parlement européen.
Donc d'ici la prochaine émission, Sabine apprend le turc, et Rodan s'inscrit à un cours de mandarin pour apprendre le chinois.
Et le tibétain, parce que c'est la langue. Et alors, il y a effectivement...
C'est tout
le peuple tibétain qui est en danger avec la Chine, hein, de toute façon.
Voilà, donc il y avait vraiment une phrase, si un pays veut faire disparaître un autre pays, il commence par s'attaquer à la langue et à l'écriture. Et je crois que ça, c'est très, très vrai.
Il a attaqué des centres, des petites villes au Tibet qui étaient traditionnelles. Ils ont tout rasé, ils ont fait des grandes surfaces. Donc c'est assez terrible.
C'est un génocide.
C'est pas forcément un génocide, mais culturel,
ouais,
oui.
C'est culturel.
Voilà, c'est ça.
Parce que Dalai Lama, ça fait un moment qu'il a pété là-bas.
Ouais, il y en a beaucoup qui s'immolent. Les flics là-bas se promènent avec des extincteurs.
Mais le problème, c'est que dans une ou deux générations...
Pourquoi il y a souvent des incendies?
Non, parce qu'ils s'immolent pour protester. Donc, ils arrêtent l'immolation des gens avec des extincteurs.
Et là, c'est un crime aussi de vouloir s'immoler, parce que c'est contre, c'est pour faire la honte à la Chine à l'étranger. C'est vraiment ce qu'ils essayent aussi de faire croire. Alors donc, on encourage, on soutient, et on espère qu'il n'aura pas 15 ans de condamnation, mais c'est pas sûr.
Les invitations au voyage d'Edith et Sermine.
C'est des pays voilà, qui font rêver quand même, mais pas forcément ce qui se passe actuellement.
On n'a pas encore donné la parole à la personne qui est pour la première fois au micro. Et elle va se dire, finalement, je me suis dérangé pour rien. Donc voilà. Donc maintenant, Clara, parle-nous de... C'était sur l'avortement, je crois, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est moi qui vais vous faire voyager. Voilà. On va partir en Pologne, là où le droit des femmes et des filles sont attaqués. La loi polonaise est déjà la plus restrictive d'Europe. L'avortement est autorisé en cas de viol, d'inceste, de maladie grave pour le fœtus ou de malformation. C'est donc ça qui est mis en danger depuis peu, puisque la commission parlementaire a demandé une restriction de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, donc l'IVG ou l'avortement, suite à une initiative dénommée Stop Avortement. Elle vise à supprimer l'existence de malformations graves d'une maladie du fœtus. Mais cependant, aucun délai n'a été fixé. Donc la commission parlementaire a le choix qu'il a le temps qu'il lui faudra. Certaines statistiques ont prouvé que l'avortement légal en Pologne est le plus pratiqué pour ce motif. C'est donc absolument abominable que ce soit remis en cause. Des recherches par Amnesty International en Irlande, au Salvador, au Nicaragua, au Paraguay ont montré que dans tous les pays, les femmes et les jeunes filles paient un lourd tribut aux restrictions de l'avortement sur illégal. Elles les paient de leur santé, de leur bien-être, voire de leur vie. Cette loi qui vise à supprimer la malformation grave ou mortelle du fœtus figure au nombre des motifs minimaux pour lesquels les femmes et les filles doivent avoir accès à un avortement sûr et légal. Donc du coup, elle le priverait et c'est le droit international relatif aux droits humains qui est mis en cause. Le fait de ne pas pouvoir avorter sous cette condition mettrait donc du coup en danger la santé physique ou mentale de la femme, puisque donner naissance à un enfant qui n'a aucune chance de vie, c'est faire souffrir la mère par des souffrances inimaginables. Actuellement en Pologne, des obstacles pour recourir à des avortements légaux ont été mis en place. Du coup, par conséquent, les médecins ont le choix de refuser ou non de pratiquer un avortement. Tout dépend de leurs raisons religieuses. Les médecins, les infirmiers, pratiquent des avortements légaux uniquement s'ils jugent que c'est en noble et conscience à leur conscience, puisqu'ils craignent souvent d'être poursuivis en justice. En octobre 2016, des dizaines de milliers de personnes sont descendues, hommes et femmes réunis, dans les rues de Pologne, alors qu'il pleuvait beaucoup.
En Pologne, il pleut, c'est vrai ça.
Et cette mobilisation visait à combattre contre la proposition de restriction quasi totale à l'accès à l'avortement. C'était déjà le cas du coup il y a 2 ans maintenant. Ce mouvement qui a été qualifié de protestation noire, puisque hommes et femmes sont allés travailler en noir, se sont habillés en noir durant cette journée, ont réussi quand même à gagner. C'était un combat qui a été repoussé. Cette victoire est menacée encore aujourd'hui, donc il y a quelques jours maintenant, on a su ça, puisque le Parlement, les pro-vie autrement dit, souhaite un retour en arrière. Du coup, je vous conseille, et je le ferai, je le souhaite à toute personne, de signer la pétition adressée au président et aux députés polonaises pour leur demander de rejeter cette restriction à la loi sur l'avortement, puisque c'est immoral. Voilà, c'est tout pour moi.
Très bien, bravo.
Très bien, voilà, elle vient d'essuyer les plâtres, comme on dit effectivement. Mmh. C'était la première au micro pour Clara.
Voilà,
donc c'est une pétition qui est en ligne sur le site d'Amnesty.
Sur la première page d'Amnesty.
Qui a été mise en ligne aujourd'hui ou hier, et donc qui a déjà obtenu quelques milliers de signatures, mais on peut faire beaucoup plus, encore une fois. C'est seulement la pression qui fera reculer les parlementaires polonais qui préparent cette remise en cause du droit à l'avortement en Pologne.
Voilà. Et c'est vrai que la manifestation dont tu parles, on l'avait évoqué, Sabine, les femmes qui vraiment et les hommes qui avaient vraiment
été
pour déjà stopper un premier changement dans la loi de l'avortement. Oui. Voilà.
On avait fait un dossier d'ailleurs au mois de novembre dernier au micro de Principe Actif sur la situation de l'avortement en Europe. Donc si vous réécoutez l'émission du mois de novembre, celle du 17 novembre si j'ai bonne mémoire, on parlait de
ça. Je pense que tu étais vérifié avant.
Oh, Didier, c'est trop la fin.
Alors là, j'ai du mal à croire que oui, ça soit comme ça.
Et quel temps faisait-il le 17 novembre?
Est-ce qu'il pleuvait des cordes?
J'ai été voir dans nos archives quand j'avais fait ce dossier.
Voilà.
Ouais.
C'est bien évidemment.
Donc toujours à propos d'avortement, je crois qu'il dit aussi, vous voulez vous donner quelques informations.
Parce que Clara, parlant de l'avortement en Pologne, donc c'est vraiment une actualité urgente et pour laquelle il faut signer. Moi j'ai retrouvé un article sur la situation en Irlande. Alors pas tout à fait la même chose en Irlande. En Irlande, il va y avoir une consultation en 2018. Mais quand même, l'Irlande, c'est le pays d'Europe où c'est le plus dur actuellement, car c'est le pays d'Europe qui a introduit dans sa constitution le droit à la vie de l'enfant à naître, au même titre que celui de la mère. Cela a été approuvé par un référendum en 1983, quand même, oui. Voilà, il faut que je m'applique sur la lecture. Alors, ce 8e amendement interdit tout simplement l'avortement sur le territoire irlandais. Une femme enceinte ne peut avorter en Irlande. Après un viol, un inceste, un cas de malformation de fœtus, même s'il est avéré que celui-ci n'a aucune chance de survie. Donc, il y a actuellement en Irlande des mouvements de réflexion, de contestation, aussi bien pro-life que pour faire que cet amendement disparaisse. Donc, ce qui se passe tout de suite, c'est qu'environ chaque année, 4000 femmes quittent leur pays pour avorter à leurs frais à l'étranger. Le plus souvent, c'est vers l'Angleterre qu'elles se dirigent. Elles prennent le ferry. On dit ici qu'elles prennent le bateau. Chaque jour, elles sont ainsi une dizaine à embarquer et à traverser la mer d'Irlande dans le plus grand secret. Les voyages, les soins et le séjour coûtent environ 1 500 $. Celles qui n'ont pas les moyens de les payer ou les immigrés qui doivent demander un visa pour sortir du territoire prennent le risque d'avorter seules, parfois au péril de leur vie. Dans le plus grand secret, elles contactent des associations basées à l'étranger comme Women ou Web of Women on Waves et se procurent des médicaments abortifs commandés sur Internet. On en compterait plus de 1 000 par an. Ce sont des criminels au regard de la législation en vigueur, passibles de 14 ans de prison. Alors, ce qu'il y a eu aussi pour faire bouger la mentalité, c'est qu'en 2012, une femme d'origine indienne, Savita Alapanavar, est victime d'une fausse couche. Cette femme s'est vue refuser dans un hôpital de Galway un avortement au motif que le cœur du bébé battait encore. Et les médecins n'avaient pu intervenir qu'à la mort effective du fœtus, mais cela était trop tard pour Savita, qui décédait peu après d'une infection généralisée. Cela a été un électrochoc pour notre génération, explique Nell, un guitariste d'un groupe de musique qui depuis a fait un festival de musique tous les ans en septembre. Donc ça a été aussi dans les réseaux sociaux beaucoup de colère de la jeunesse contre le gouvernement et la législation en vigueur. C'est aussi le début de combat pour la modification de la constitution irlandaise. Et ce qui se passe aussi en Irlande, c'est que l'Église a un poids très important. Et même si elle a perdu de son influence dans la société suite à une série de scandales pédophiles, elle reste très puissante dans les cercles du pouvoir, notamment sur ce sujet. Même si l'Irlande a légalisé en 2015 le mariage homosexuel par référendum. Donc on se trouve avec deux parties de la population opposées. Et pour l'instant, rien n'est gagné, rien n'est sûr. Même les docteurs, même les médecins ne peuvent parler de l'avortement de façon officielle, voire même dans les consultations. Car à l'instar de leurs patientes, ils peuvent, ils sont reconnus d'avortement, d'un avortement ou d'une tentative de proposer l'avortement à des femmes, de peine de prison. Les médecins irlandais évoluent dans un environnement contraignant.
Mais où va-t-on ?
Ils peuvent informer leurs patientes sur des solutions qui existent en dehors de l'Irlande, mais c'est aux femmes de faire des démarches. Jamais vous ne mentionnez le mot avortement, jamais vous ne l'écrivez, dit l'un de ces médecins. Je dis juste aux femmes, si vous le souhaitez, je peux vous donner des coordonnées de l'un de mes collègues en Angleterre pour que vous ayez un second avis. Voilà. C'est quand même assez inimaginable pour nous femmes, je pense. Hein. Et d'après les chiffres qui analysent depuis 40 ans l'évolution du pays, 20% de la population reste viscéralement hostile à l'avortement, 25% exigent le choix sans condition, et le reste veut que cela bouge, mais ne sait pas encore comment ni à quel point. Donc, il peut y avoir même des manifestations, des affrontements entre les deux positions. Les campagnes, les anti-avortements font des campagnes très violentes. Ils font peur aux gens. Il médiatise des cas d'avortement extrêmes au-delà de 30 semaines, mais il n'explique pas que le contexte. Ils font croire qu'il s'agit de grossesses non désirées alors qu'il s'agit en fait de cas génétiques très graves. Donc on en est là.
Et on est en Europe au XXIe siècle. C'est fou quoi.
Là, la Pologne, elle est en train de bouger parce que c'est vraiment, il faut absolument qu'il bouge très vite pour empêcher la loi. L'Irlande est en réflexion et on espère que il va y avoir les groupes qui veulent l'abolition de cet amendement va pouvoir gagner. Donc suite sur l'année.
Moi, je fais juste rajouter qu'à Malte, c'est à peu près le même cas, sauf que c'est encore plus strict, vu que 90% de la population est catholique. Ce qui entraîne donc que 60% de la population maltaise est contre l'avortement. Certaines lois ont été créées donc, du coup, pour contrer les lois de l'Union européenne qui visent, qui sont contre cela. Du coup, voilà, je voulais juste rajouter
ça. C'est encore des pays bastions.
Parce qu'on parle de Pologne, d'Irlande, mais on en oublie certains où c'est totalement illégaux et criminalisé. Voilà.
Donc, je sens que c'est un sujet qui te tient à cœur et pour lequel tu pourrais faire une publication au lycée.
Ah bah, bien sûr.
Mon corps sans droit.
Oui, campagne qu'on a
c'est
fait.
C'est la campagne Mon corps mes droits, effectivement. Mon corps, mes droits. Ça rappelle ça. Je crois qu'après le droit à l'avortement, il y avait Rona qui voulait vous dire quelque chose.
Moi, je vais faire une bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'on entend tout ça. Donc la bonne nouvelle, on part en Égypte. Maynour El Malsiri est avocate et avait été condamnée en 2016 pour son militantisme pacifique. Elle vient d'être relaxée. C'est une merveilleuse nouvelle. Elle n'aurait cependant pas dû passer un seul instant derrière les barreaux car elle n'a été arrêtée qu'en raison de son militantisme pacifique en Égypte. Voilà. Donc, je sais pas.
Ah, t'es très sobre quand même dans ta bonne nouvelle.
Ouais, mais bon.
Mais on est content. Voilà.
Alors là, on a perdu Didier. Je sais pas parce que ce soir, nous avons un photographe dans le studio.
Un paparazzi ?
Alors, je parle de Aed Tamimi.
Tu nous emmènes où ?
Alors, nous, on part Israël, Palestine. Donc, Aed Tamimi est une militante palestinienne de 16 ans. Qui risque jusqu'à 10 ans de prison pour une simple altercation avec des soldats israéliens. Le 15 décembre dernier, elle et sa famille manifestent contre la décision de Donald Trump de faire reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. La situation prend un tournant dramatique lorsque son cousin de 14 ans, Mohamed, reçoit une balle en caoutchouc en pleine tête, tirée à faible distance par un soldat israélien. L'adolescent doit subir une lourde opération chirurgicale. Plus tard, ce même jour, Aed se trouve face à des soldats israéliens entrés dans la cour de sa maison. Une vidéo la montre sans armes, en train de frapper, de pousser et de donner des coups de pied à deux soldats israéliens portant un équipement de protection. Alors qu'elle ne représentait aucune menace sérieuse, la jeune fille risque jusqu'à 10 ans de prison, une sanction totalement disproportionnée. Un juge a ordonné sa détention jusqu'à la fin de son procès devant un tribunal militaire. Cette situation scandaleuse doit cesser. Ensemble, interpellons le Premier ministre Benjamin Netanyahou et exigeons sa libération immédiate. L'histoire d'Aed est emblématique du traitement que subissent les enfants palestiniens qui participent à des actions militantes. Israël viole la Convention des droits de l'enfant, qui stipule notamment que l'emprisonnement des enfants devrait toujours être un dernier recours des mineurs. Aed est l'un des quelques 350 enfants mineurs palestiniens actuellement détenus dans les prisons israéliennes. Chaque année, les forces israéliennes arrêtent et poursuivent environ 500 à 700 enfants palestiniens, systématiquement maltraités, soumis à la torture et à d'autres mauvais traitements en l'absence de leur avocat ou de leur famille. Encore une fois, on prend soin de nos enfants mineurs de par le monde.
Et je pense que sur Internet, quand elle était avec les soldats israéliens, ça a été filmé et c'est facile à voir sur YouTube. Et donc, vous pouvez aller voir la réalité de ce qui s'est passé et voir la lecture d'Israël par rapport
oui,
à...
Oui, et puis elle avait peut-être des raisons d'être de mauvaise humeur puisque son cousin venait d'être... de se prendre une balle dans la tête. Gravement, mais, oui. Et puis bon, une jeune fille pas armée contre des mecs hyper avec une tenue quand même d'attaque, ouais, je suppose.
Voilà, ouais. Il y a la pétition.
Donc, à un moment donné, il faut peut-être arrêter et puis considérer que c'est quand même des mineurs et des enfants qui ont aussi le droit de...
D'être en colère d'être par en rapport colère. À ce qui se passe entre Israël et la Palestine, ça c'est sûr.
Oui, c'est, qu'on puisse dire, ça, c'est une décision complètement disproportionnée par rapport à ce qu'on peut reprocher éventuellement, ce qu'on pourrait reprocher par rapport à son attitude. Mais c'est complètement disproportionné par rapport à ce qui s'est passé. Quoi.
Et il faut aller sur le site d'avoir signé la pétition.
Oui, il faut aller sur le site. Il n'y a pas qu'Amnesty qui demande la pétition. Moi, je l'ai vu sur d'autres sites, Chen, je crois, ou choses comme ça. Donc, ça fait vraiment un mouvement au niveau mondial. Et il faut en profiter pour dénoncer. Parce que, comme tu dis, elle n'est pas la seule dans les prisons israéliennes.
Et je crois que, Sabine, tu voulais nous parler aussi d'Iran.
Oui, alors c'est pas terrible non plus. Hein. Moi, je vous envoie. C'est pas des voyages
touristiques
qu'il faut rêver.
Pourtant, c'est un beau pays aussi. Hein.
Donc, en Iran, la peine d'amputation est toujours pratiquée. Un homme reconnu coupable de vol a été amputé d'une main le 17 janvier. Une pratique barbare qui perdure. Le dernier cas d'amputation concerne un homme de 34 ans, identifié par ses initiales AKH. Il a été condamné à être amputé de la main il y a 6 ans pour vol de bétail et d'autres biens de valeur dans plusieurs villages de la province. En 2017, des dizaines de peines d'amputation ont été prononcées et par la suite confirmées par la Cour suprême. En avril 2017, Hamid Mouani a été amputé d'une main par les autorités judiciaires de Shiraz, dans la province du Fars, avant d'être exécuté 10 jours plus tard, après avoir été condamné pour vol qualifié et meurtre. Donc d'abord on le torture, hein, et 10 jours après, on l'exécute. C'est un petit peu cruel quand même. Donc un crime au regard du droit international... flagrant, quoi. Infliger des sanctions aussi cruelles ne sert pas la justice et met en lumière le mépris total des autorités iraniennes envers la dignité humaine. L'amputation est un crime au regard du droit international. En tant qu'État faisant partie du pacte international relatif aux droits civils et politiques, le PIDCP, l'Iran est juridiquement tenu d'interdire la torture en toutes circonstances, sans exception. Ceux qui ordonnent et exécutent de telles pratiques doivent être passibles de poursuites pénales. Les autorités israéliennes défendent l'amputation...
Iranienne.
Pardon. Comme le meilleur moyen de dissuader les voleurs.
N'accusons pas Israël de crimes qu'il ne commet pas. Il en commet suffisamment comme ça.
C'était la petite jeune. Déplorant qu'elle ne puisse pas être pratiquée en public et de manière généralisée sans susciter la condamnation de la communauté. C'est vrai que maintenant...
On n'aime pas regarder les gens se faire couper les mains.
De la communauté internationale. Parce que c'était filmé et puis c'était très théâtral. Dans une déclaration devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, en octobre 2010, Mohamed Javad Larijani, à la tête du Conseil des droits de l'homme d'Iran, avait réfuté que ces châtiments s'apparentaient à de la torture, affirmant qu'ils se justifient d'un point de vue culturel et religieux.
Ben voyons. Donc, ça me rappelle mon commentaire sur les gens qui n'ont pas beaucoup plus que 2 neurones et demi du début.
Donc la société civile iranienne se mobilise, mais un mouvement national visant à abolir ces châtiments inhumains et dégradants se déploie depuis longtemps en Iran et de nombreux Iraniens, dont plusieurs dignitaires et érudits religieux, ont fait part de leur opposition, se retrouvant en butte aux persécutions. À titre de représailles.
Ben oui, bien sûr, c'est comme ça que les régimes autoritaires font régner leur pouvoir, c'est par la peur. C'est pas nouveau non plus. Continue. On voulait faire un appel à l'action par rapport à l'Iran, mais il y a Renan qui me fait non, mais laisse-moi finir, Renan, parce que là, on n'aura pas le temps, effectivement, de vous le présenter, mais ça fait rien, c'est les gens qui veulent, parce que c'est deux appels à l'action concernant.
Deux actions urgentes
concernant deux mineurs qui sont menacés de peine de mort. Et si on si n'écrit pas pour eux, effectivement, ils risquent d'être exécutés. Ouais. Alors qu'ils étaient mineurs.
Ils étaient mineurs, ils ne sont plus mineurs parce qu'il y en a un qui a 18 ans.
Voilà.
Ils ne sont plus mineurs maintenant, mais au moment de leur arrestation, ils étaient mineurs.
Voilà.
Donc, et dont un des deux, bon, je vais commencer par les 30 secondes.
Oui,
donc, je ne vais pas les noms là, mais dont un des deux, et là, c'était quand même sous la torture qu'il a.
Qu'il a avoué.
Qu'il a avoué. Il avait 17 ans, je crois, et maintenant il en a 24 celui-là, je crois. Et dans la note qui avait 14 et qu'il en a 17.
Ami d'Amadi.
Voilà. Et il y en a deux.
Donc, de toute façon, le droit international précise bien que la peine de mort est inapplicable normalement pour, enfin, normalement, officiellement, pour des gens qui étaient mineurs au niveau des faits qu'on leur a reprochés, tout et autant que ces faits soient avérés exacts. Mais de toute façon, la peine de mort ne peut pas s'appliquer à des gens, déjà de façon.
Personne, encore moins à des mineurs.
Du tout, mais le droit international précise bien que si les gens sont mineurs au moment des faits qui le sont reprochés, la peine de mort n'est pas envisageable. Or, c'est effectivement, ces deux jeunes sont pour l'instant dans le couloir de la mort iranien et attendent leur exécution.
Et en plus, ils attendent, en plus, il y en a un des deux, je crois, qui a 17 ans, c'est que quelques heures avant qu'ils soient exécutés, qu'on est venu le voir, en fin de compte, on ne vous exécute plus et tout. Alors, si vous imaginez psychologiquement l'attente.
C'est de la torture.
C'est considéré par Amnesty comme une forme de torture.
Ah bah,
ce genre de comportement.
Ouais.
Donc, que là, on n'aura pas le temps, mais déjà, Renan vous en a dit déjà.
Voilà. Non, mais d'abord, très bien. Non, mais si vous êtes intéressé, d'abord, vous envoyez un mail quand il est tué.
On vous envoie l'explication et la lettre signée et vous nous envoyez vos coordonnées sur amnesty.evreux@gmail.com.
Tout à fait.
Et on vous renvoie l'action à faire et après vous n'avez plus qu'à signer et à mettre un timbre.
Un peu d'actualité locale.
Oui, on arrive au terme de l'émission et on a une actualité locale qui est pas mal chargée. Donc on a la semaine prochaine le jeudi 8 février, oui, j'allais dire janvier, dans le jeudi 8 février. On est présent à un concert de Team Dup. Il y a Clara qui est à côté de moi qui est très content que Team Dup vienne.
Je sais pas, Clara,
depuis qu'elle est au courant, elle saute partout.
Voilà, parce qu'elle aime beaucoup Team Dup. C'est quelqu'un qui apparemment elle a une cote qui monte, d'après ce que je peux savoir. On sera présent, nous, Amnesty, au niveau d'un stand qu'on va tenir avant et après le concert. Voilà, ouais. Donc c'est jeudi prochain. Le 8 février au Cube, bien sûr, à la salle des musiques actuelles. Ça, c'était la première information. La deuxième information, c'est la semaine suivante. Alors, retenez bien la date. On va vous en reparler dans la prochaine émission, mais ce sera juste avant.
Agenda.
Retenez bien la date.
Février.
C'est le samedi 17 février.
Et le
vent. Il n'y a pas que le samedi.
Non, il n'y a pas que le samedi. Mais je vais vous parler du samedi et c'est Clara qui va vous parler de la veille. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est assez logique. Et voilà. Donc, je vais vous parler du samedi 17. Il y a le bus d'Amnesty International sur la campagne des réfugiés qui s'appelle I Welcome, qui sera à Évreux le vendredi 16 et le samedi 17. Et le samedi 17, on sera toute l'après-midi au Cube, là aussi, à la salle des musiques actuelles, grâce à l'aide de nos amis du Tangram. Et on fait une après-midi de films et de conférences. Donc, le samedi 17 février. Bien évidemment que l'entrée est absolument libre et gratuite.
Et il me semble que Principe Actif, il sera en présence aussi.
Principe Actif couvre l'événement et on a, alors je ne vous donne pas les horaires, mais quoi qu'ils sont faits, enfin je vous donne simplement.
Non, ils les auront la prochaine fois.
Le contenu.
La prochaine émission.
Le contenu.
Clara.
Et Clara, tu sais que je vais recouper la parole.
Non, mais
sérieusement.
Sérieusement, j'annonce quand même les films, c'est important.
C'est impressionnant comme ça.
Il y a deux films, je vais y arriver, il y a deux films. Un qui s'appelle.
Le premier.
Un qui s'appelle Nulle part en France et l'autre qui s'appelle Welcome chez nous. C'est le film qui a été tourné à Cerquigny, pour ceux qui se rappellent de l'actualité de Cerquigny, en 2015-2016. Donc on présente ces deux films et il y a une conférence débat qui s'appelle Réfugiés et migrants, une nécessaire solidarité.
Et Clara, qu'est-ce que tu nous dis ?
Allez. Et Clara vous parle de la veille où le bus sera au lycée, si je ne m'abuse.
Voilà, le bus sera au lycée. Du coup, je vous convie à venir, enfants, professeurs, élèves, pour venir nombreux à cette manifestation sur les réfugiés.
Et bien voilà. Et petite dernière info, c'est plus tard. C'est plus tard, mais il faut déjà le noter. Le mardi 20 mars,
vous changez de moi.
Il y a un forum des droits humains organisé par la Amnesty Région Haute-Normandie, une conférence et débat au Conseil régional de Normandie 5 rue Robert Schuman.
Avec
toute une série de conférences et de débats sur le thème lutter contre la pauvreté et les inégalités. C'est le mardi 20 mars, mais ça, on vous en reparlera plus en détail dans les prochaines émissions.
Alors, vous avez retenu.
Prochaine émission, c'est quand ?
Le 8.
Le 8, le 16 et le 17.
Voilà, pour le mois de février.
Et la prochaine émission, c'est le quand ? On ne sait pas.
C'est bientôt.
On ne sait pas.
Allez, je vous dis
en février.
Bonsoir.
Au revoir.
Bonsoir.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent.